Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
La taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA, a fêté ses 70 ans cette semaine. Un impôt sain et juste, selon Georges Pompidou, lors de sa généralisation en 1968. Taxe de la vorace administration pour d'autres à la même époque. Elle est, en 2024, la première source de revenus pour l'État. Elle est aussi accusée d'être le plus injuste des impôts. L'occasion donc pour nous de faire le tri parmi tous ces superlatifs et de revenir sur les effets de ce mécanisme taxé de toutes les vertus et d'autant de vices. Mais avant cela, comme tous les vendredis, Entendez-vous l'écho prête l'oreille à l'actualité de la recherche et à la façon dont l'économie se renouvelle grâce aux chercheurs et aux chercheuses qui se saisissent de cette discipline pour l'analyser sous des prismes nouveaux. C'est ce qu'a fait notre invitée du jour, puisque c'est en tant qu'historienne qu'elle s'est penchée sur la vaste question de la dette et plus précisément sur la façon dont s'est progressivement élaborée une culture typiquement française de cette dernière. Pour comprendre le rapport qu'entretient l'opinion publique avec cette question, souvent perçue comme technique, ou comme objet de débats obscurs, elle a écumé la presse et les discours politiques depuis le début du XXe siècle. Entre adhésion enthousiaste au principe de l'emprunt et critique parfois morale de l'endettement, elle ose émettre cette hypothèse. Et si, tout simplement, les Français n'en avaient que peu à faire de cette histoire de dette? Un constat qui pourrait faire frémir plus d'un économiste et plus d'un ministre des Finances, mais dont Laure Kenwell-Corr va nous expliquer les tenants et les aboutissants dans cette émission. Bonjour Laure Kenwell-Corr.
Bonjour.
Laure Kenwell-Corr, nous l'avons dit, vous êtes historienne, vous êtes également directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Historique, et vous êtes spécialiste d'histoire économique et financière du XXe siècle, dont il est entre autres question dans votre ouvrage « Le déni de la dette, une histoire française » paru aux éditions Flammarion le 10 avril 2024, donc très récemment. Vous partez donc d'un constat, on le disait dans votre ouvrage, selon lequel les Français seraient insuffisamment informés sur la dette, voire que ce sujet est quasiment absent du débat public. C'est en cela que vous parlez d'un déni de la dette, Laure Kenwell-Corr.
Oui, alors ce déni, il a des racines historiques, mais ça n'a pas toujours été le cas, effectivement. Donc, si on repart de la Première Guerre mondiale, ce qui est l'objet de mon livre, parce que je considérais qu'à partir de 1914, on entrait dans le siècle de l'endettement et de l'inflation, comme tous les historiens le savent. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les Français, en fait, vont être sensibilisés à la question de l'endettement parce qu'ils vont être directement mobilisés par le gouvernement pour souscrire ce qu'on a appelé des bons du Trésor et des bons de la Défense nationale. Alors pourquoi? Auparavant, il y a ce type d'emprunt public existait. Hein, ce sont des titres à court terme, de 1 mois, 3 mois, 6 mois à 1 an. Donc on peut se procurer de différentes manières auprès des guichets bancaires, des guichets publics, etc. Mais c'est vraiment la première fois que les Français sont directement appelés à souscrire. Auparavant, c'était réservé plutôt aux banques, aux grands investisseurs, aux commerçants aisés, etc.
C'était ça qu'il faut d'ailleurs bien comprendre dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un vrai tournant, donc celui de la Première Guerre mondiale, vous venez de l'évoquer, où la dette est multipliée par 3. Ça ne veut pas pour autant dire que l'État français n'a jamais recours à la dette dans tous les siècles précédents, bien au contraire.
Bien au contraire. Donc, c'était de l'endettement qui était en fait souscrit auprès de banques, les banques d'affaires du temps de l'Ancien Régime, aussi des commerçants ou de. Mais c'était vraiment pas dans le grand public. Alors, il y a eu des périodes, hein, quand même. Au 19e siècle, qu'on a qualifié de siècle du rentier, il y avait effectivement un appel à la dette, notamment les grands emprunts qui ont permis de rembourser la dette auprès de l'Allemagne, les 5 milliards de marques or que la France devait à l'Allemagne après la guerre de 1870 ont été largement souscrits. Oui. C'est clair. Mais là, on entre dans un système beaucoup plus régulier, une forme de pérennisation de la dette et à partir de là, la dette va croître et embellir de manière quasi constante.
Ce qu'il faut bien comprendre dans votre démarche, Lorcan Wellcor, c'est que vous ne faites pas une histoire tout simplement de l'évolution de la dette bête et méchante, on va dire. Vous, ce que vous cherchez à comprendre, c'est la façon dont le rapport de la France, voire des Français à la dette, s'est construit progressivement et comment il y a une culture spécifique de la France à la dette. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'appréhende pas la dette de la même façon en Allemagne, en Grande-Bretagne qu'en France, Lorcan Wellcor?
C'est ce que j'ai essayé de montrer, hein, même si j'ai pas pu pousser la comparaison avec l'Allemagne et la France, qui étaient les deux grands pays à l'époque à laquelle on se comparait. Mais j'ai trouvé quelques éléments de comparaison qui montrent qu'effectivement, il y a une spécificité du rapport à la dette de la France, qui recouvre évidemment la spécificité du rapport des Français à leur État et à la dépense publique, bien sûr. Donc tout cela est évidemment tout à fait lié. Donc en fait, les Anglais, on le voit dès le départ par rapport à l'Angleterre. Hein, dès le départ, l'Angleterre va financer la guerre beaucoup plus par l'impôt que par l'emprunt, et donc être beaucoup plus vertueuse de ce côté-là. La France, en France, on va fournir l'emprunt avec 15% du budget consacré à l'emprunt. En fait, c'est très compliqué quand on a une guerre longue et coûteuse aussi de lever de l'emprunt régulièrement, de l'impôt, pardon, régulièrement. Faire appel à l'emprunt à court terme, c'est beaucoup plus simple.
Oui, c'est ça, c'est presque une question pratique, finalement. C'est plus pratique, plus rapide, donc on passe par ces fameux bons de la défense nationale. C'est une façon de financer la guerre rapide et efficace.
Voilà, absolument. Alors juste pour finir sur la comparaison alors avec l'Allemagne, elle aussi a financé la guerre avec beaucoup de dettes à court terme et de liquidités, mais de manière encore plus développée qu'en France. Je ne vais pas insister sur cette question, mais ça a donné lieu à des dérives budgétaires très importantes après la Première Guerre mondiale et incidemment à l'hyperinflation et tout ce qui s'ensuit. Donc ça a donné, côté allemand, une réaction différente. C'est-à-dire qu'ils ont eu un traumatisme et donc ils ont une crainte de l'inflation et donc de la dette liée à l'inflation extrêmement forte et qui a entretenu la mémoire collective jusque dans l'après-guerre, jusqu'à la réforme de 1948, etc.
Est-ce qu'on peut dire jusqu'à aujourd'hui que ce traumatisme a laissé
bien
des traces ?
Bien sûr qu'on peut en parler. Bien sûr, puisque toutes les étapes de l'histoire économique et financières allemandes sont effectivement scandées par ce rapport à l'inflation et à la dépense publique. Donc il y a eu 1848, il y a eu également la loi de 1970 qui a effectivement aussi resserré à nouveau les exigences budgétaires. Et ensuite, après, dans les années 2000, c'est poursuivi et l'écart avec la France s'est creusé.
Oui, ce qu'on voit dans les discussions actuelles notamment, pour en revenir à ce fameux moment fondateur, ce traumatisme, mais aussi ce tournant de la Première Guerre mondiale, il faut dire aussi que ce rapport presque personnel, on va dire, des Français à cette dette via l'emprunt, il est largement soutenu par une médiatisation très forte aussi. Il y a cette idée de motiver les troupes, qui seraient pas les troupes au front, mais les troupes citoyennes, en leur faisant comprendre qu'on a besoin de cet emprunt, et il y a une espèce d'élan patriotique qui vient motiver finalement la souscription à ces bons.
Ah oui, cet élan patriotique est entretenu par une propagande extrêmement développée, avec des affiches, des tracts, des concours dans les écoles de rédaction sur le bon du trésor, des magasins qui proposent à leurs clients de payer en bon du trésor. Enfin, vraiment, le bon du trésor s'invite dans les foyers et on le voit très bien dans les unes des journaux et même dans les faits divers. Quelquefois, on dit il y a eu un vol chez tel particulier à Paris, on est à dérober de l'or et des bons du trésor. Enfin, ça fait partie vraiment du patrimoine des Français et c'est ça la grande nouveauté.
Je crois que vous parlez d'ailleurs d'une vision euphorisée de la dette publique devenue une arme de combat. C'est donc un rapport très, très sentimental presque à la dette.
Absolument, très sentimental et un peu charnel aussi parce qu'à l'époque, le bon du trésor, on les achetait au guichet des banques, auprès d'un notaire, auprès de son facteur, qui pouvait arriver avec sa sacoche avec un bordereau de bons du trésor, qui pouvait vous pouviez donc en acheter. En plus, c'était des bons anonyme, qui rapportait un taux d'intérêt de 5%, qui était facile à mobiliser si on avait besoin de liquidité. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt.
C'est intéressant, cette question de l'intérêt et finalement de la praticité de la chose, parce qu'on pourrait se dire que, au-delà de l'élan patriotique et des circonstances très particulières qui sont celles d'une guerre, évidemment, on pourrait se dire, et généraliser peut-être ce constat, mais que finalement, une dette ne pose pas tellement de problèmes tant qu'on a confiance dans le système politique qu'il émet.
Ah, c'est tout à fait vrai. C'est le rapport entre l'emprunt et la confiance est une donnée constante qu'on retrouve dans toute l'histoire dans l'histoire de nombreux pays, et notamment en France. Et donc là, on a bien vu la fuite devant la confiance justement après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il y a une dégradation très forte des finances publiques, il y a une crise de change importante en 1923-1924. Et donc là, il y a tout d'un coup une perte de confiance des détenteurs de bons qui ne veulent plus racheter et qui demandent le remboursement. Et donc là, c'est là le danger de cette dette publique à court terme qu'on a peut-être développée à l'excès.
Parce que vous parlez d'un manque de lucidité, je crois, de la part de l'opinion publique.
Voilà, manque de lucidité et peut-être aussi un peu de négligence de la part des politiques qui se sont pas rendus compte qu'une dette à très court terme, c'était une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Avec un emprunt à 10 ou 20 ans, on a le temps de voir. Là, il faut le rembourser tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc, si vous perdez la confiance de l'opinion, c'est grave.
Et comment on explique cet aveuglement, cette non-prise de conscience, ce déni finalement ?
C'est-à-dire que je pense que c'était assez nouveau. Donc, on ne s'est pas rendu compte. Et puis, bon, tant qu'on n'est pas en face de la crise, on a du mal
à en percevoir les conséquences.
Donc il y a eu quelques lanceurs d'alerte dans la presse, mais c'était ils n'ont pas été écoutés, comme Gaston Gèze qui disait que c'était vraiment dangereux. Et voilà. Et donc il y a quand même eu un directeur du Mouvement Général des Fonds qui a démissionné quand il a vu la situation alarmante de la France en 1923. Donc je le souligne parce que c'est rarissime qu'on ait un haut fonctionnaire du ministère des Finances qui démissionne parce qu'il est en désaccord avec la politique menée.
Donc on voit que c'est l'objet de fortes tensions, mais ce qui n'empêche pas qu'on retrouve peu ou prou le même mécanisme lorsque la guerre se répète avec la Seconde Guerre mondiale, avec le même succès, finalement porté peut-être par le même élan patriotique, puisqu'à tel point que la dette s'élève à 250% du PIB en 1944. Est-ce qu'il faut en conclure qu'on n'apprend pas de nos erreurs, Laure Kenwell-Corr ?
Alors ça, c'est assez intéressant, effectivement, parce que bon, il y a eu un arrêt après la crise de 23-24 et la remise en ordre de Poincaré, on a arrêté d'émettre des bons du Trésor. Mais finalement, on s'est dit, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, c'est reparti. Les gouvernants ont dit, bon, on va quand même là, à nouveau mobiliser l'épargne nationale.
Marché.
Ça a marché. Donc là, on a mis en place les bons d'armement. On a changé un peu le nom. Et à nouveau, grande campagne de presse, propagande, etc. Et là, ce qui est encore plus significatif, ce qui est étonnant, c'est que on a considéré que finalement, c'était une bonne manière de financer la guerre et après l'occupation, parce que ça a évité les avances à la Banque de France. Et donc c'est ça qu'on a privilégié, c'est pour ça que ce bon du Trésor a été privilégié et au cœur d'un circuit monétaire qui a été développé, théorisé au sein même du Mouvement Général des Fonds et qui a été après largement aussi approfondi après-guerre. Donc c'est très intéressant parce que ça, c'est vraiment une spécificité française.
Mais alors justement, comment on explique cet appel redouté à la Banque de France que vous citez dans votre ouvrage ?
Alors oui, c'est vraiment une croyance de l'opinion publique et aussi des gouvernants successifs que le fait de d'émettre trop de billets est inflationniste. Et donc la grande crainte, ce qui est assez juste vrai, et c'était la crainte principale, c'était d'éviter les appels à la Banque de France. Parce que parce que ça crée de l'inflation et aussi parce que ça mettait devant l'opinion publique les problèmes de finances publiques. Donc ça mettait en cause peut-être la gestion, la plus ou moins bonne gestion des gouvernants en place. Et donc c'était aussi une manière pour les gouvernants d'échapper à cette critique publique, parce que les avances de la Banque de France, ça passe par le Parlement.
Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que vient rapidement la conclusion que finalement ce déni de la dette ou cette mauvaise information autour de cette question-là, elle est aussi entretenue quelque part par les pouvoirs publics.
Oui, absolument. C'est toujours l'interaction entre les opinions publiques et les gouvernants. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que les gouvernants, ils répondent aux attentes de l'opinion publique, mais celle-ci, elle est aussi forgée par les politiques qui sont menées. Elle ne voit pas tellement d'autres alternatives, et donc elle se dit si c'est la seule solution, ils ne vont pas chercher ailleurs.
La France veut relever ses ruines, mais si d'énormes efforts ont déjà été accomplis, trop de destructions marquent encore le visage du pays. Pour accélérer la reprise économique et industrielle, le gouvernement a lancé l'emprunt national de 5%, libérable par demi des titres anciens, dont le ministre des Finances a remis le premier titre au président de la République. La réussite de cet emprunt, comme devait l'affirmer M. Petsch, contribuera, en dehors de toute préoccupation politique, à assurer la réalisation du programme de relèvement et de rééquipement de notre pays.
Cet emprunt, dont le succès n'est plus douteux, affirme la volonté des Français, tant à l'égard d'eux-mêmes que de l'étranger, de participer librement, sans contrainte, au redressement du pays.
Les Français ont déjà répondu à cet appel parce qu'ils ont compris que leur participation à l'emprunt amènera définitivement la renaissance française.
Nous sommes toujours en compagnie de l'historienne Laure Kenwell-Corr avec nous pour nous parler de son ouvrage « Le déni de la dette, une histoire française ». Alors Laure Kenwell-Corr, on l'a bien compris, qu'un certain enthousiasme patriotique avait contribué au succès de l'emprunt qui permet de financer la dette publique en temps de guerre. Une fois la Seconde Guerre mondiale passée, on l'entendait dans cette archive datée de février 1949, avec notamment une prise de parole du ministre des Finances de l'époque, Maurice Petsch, « Il faut reconstruire ». Et là encore, l'emprunt apparaît comme la meilleure solution au service d'une grande cause. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle encore une fois d'emprunt et non de dette. Et ça, c'est pas un terme neutre. Le terme d'emprunt fait peut-être moins peur que celui de dette.
C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est une conception positive de la dette et l'emprunt. Et c'est effectivement l'emprunt pour reconstruire et moderniser la France. C'était le leitmotiv de l'après-guerre. Et c'était tout à fait justifié, hein, même dans l'orthodoxie financière classique. L'impôt pour les dépenses de fonctionnement et l'emprunt pour les dépenses d'investissement. Simplement, bon, donc ça, c'était tout à fait acquis. Simplement, là encore, la France a un petit peu dévié de l'orthodoxie financière parce que c'est de l'emprunt à très court terme. Là, à nouveau, on prend le bon du trésor, hein, qui est donc entre un mois à trois ans, pour financer des barrages hydrauliques, la sidérurgie, la reconstruction et, comme l'a dit François Bloch-Lenay, transformer les liquidités en barrages. Et donc le trésor devient un transformateur de l'épargne. Et donc c'est vrai que c'est en soi, c'était à l'époque justifié, mais à terme, c'était source à nouveau d'inflation. Parce que forcément, à un moment, ce système qui était censé être un système autarcique, en économie fermée, ne pouvait plus fonctionner à partir du moment où l'économie française s'ouvrait à l'international et aussi devait financer après ces guerres coloniales, etc. Donc dans les années 50, ça ne fonctionne plus.
Et ça ne fonctionne plus dans les années 50 et d'ailleurs le débat se politise très fortement sur ce recours à l'emprunt pour financer l'État modernisateur aussi. Et là, il n'est plus question du tout d'ignorer ce sujet devenu brûlant. Et d'ailleurs, ce que vous dites dans votre ouvrage, si j'ai bien compris, c'est que le recours à l'emprunt est défendu par la droite libérale de l'époque, Laure Kenwell-Corr.
Oui, c'est ça qui
peut être surprenant.
Qui est intéressant, c'est l'emprunt opposé à l'impôt. L'impôt imposé, et donc souscrit par les partis de gauche, les partis radicales, les partis socialistes en tout cas. Et l'emprunt, c'est considéré comme un moyen aussi de restaurer la stabilité budgétaire et en faisant une ponction monétaire. C'est l'emprunt qui sert de ponction monétaire à ponctionner les liquidités. Donc c'est moins l'emprunt pour les investissements, mais pour la ponction monétaire. Donc c'est effectivement... mais ça va perdurer. Hein. C'est l'idée de faire reposer la politique financière sur la confiance. Donc c'est toute la figure emblématique d'Antoine Pinet qui en 1952 a marqué les esprits avec son emprunt défiscalisé, voilà, qu'on connaît, garantie or, etc.
Ils vont suivre ensuite une période de relative accalmie, on va dire, dans les années 60, puis de nouveau de dérapage dans les années 70, sous l'effet notamment, entre autres, de la récession. Puis progressivement, vous dites qu'au cours des années 90, la dette va se distancier des citoyens ordinaires. Est-ce que cette distanciation, cette mise sur le marché finalement de la dette va avoir des conséquences pour les citoyens qui ont été jusqu'ici assez sollicités finalement dans ce rapport à la dette?
Oui, alors c'est un basculement complet à mon avis qui est très important quand on se place du point de vue justement de l'opinion publique et des Français. C'est que la dette publique française va se placer sur les marchés internationaux sous l'effet donc d'un nouvel ordre mondial qui se met en place et la financiarisation des économies, et donc la dette, les dettes publiques en général vont en fait nourrir le développement des marchés financiers à l'époque, et les gouvernements des années 80, notamment Pierre Bérégovoy, le ministre des Finances Pierre Bérégovoy va justement mettre en place un système où la dette française va être complètement dématérialisée et mise à disposition des investisseurs internationaux. Donc on va perdre ce rapport direct, à la fois parce qu'il y a des organismes de placement collectif dans lesquels la dette publique va être dissoute, donc on ne va plus l'apercevoir, et deuxièmement, on va perdre aussi le côté physique du bon du trésor et des titres. On ne peut plus aller acheter à sa banque un bon du trésor.
Créer des emplois avec un grand emprunt, c'est le défi que la France peut relever si vous lui faites confiance. Si aujourd'hui vous mobilisez votre épargne, si aujourd'hui vous souscrivez au grand emprunt d'État 1993 pour vous, pour les autres, pour chacun, pour que notre pays reprenne espoir. Grand emprunt d'État 1993, investissons dans notre avenir.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovine.
Voilà, Lorcan Welcore, je voulais terminer cette émission avec cette espèce de chant du cygne, peut-être, on pourrait le dire ainsi, d'Edouard Balladur en 1993, car après, plus rien ne sera pareil, puisqu'on continuera effectivement à discuter de cette question de la dette publique qui augmente de façon assez décorrélée, on pourrait le dire, de l'engagement des citoyens. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que votre ouvrage Le déni de la dette, une histoire française, a été publié chez Flammarion et est disponible pour toutes celles et tous ceux qui voudraient en apprendre davantage sur cette histoire longue de la culture bien française de la dette. Entendez-vous l'écho se poursuit avec une table ronde d'actualité consacrée aujourd'hui à la TVA, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, qui a fêté ses 70 ans il y a quelques jours et dont la raison d'être reste plus que jamais d'actualité. On en parle juste après Continuum de Luc Anger, qui nous parle lui aussi du passé et de son lien avec notre actualité.
Merci.
Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Anthony Thomasson. Tout de suite, place à notre table ronde d'actualité où nous fêtons aujourd'hui un anniversaire.
À partir d'aujourd'hui, tous les commerçants, tous les artisans, tous les transporteurs ainsi que certains exploitants agricoles qui, eux, peuvent choisir, vont payer un nouvel impôt sur les produits qu'ils vendent ou sur les services qu'ils offrent, la taxe à la valeur ajoutée. Un nouvel impôt pour le commerce et les services, mais un impôt que connaissent déjà depuis 1954 les industriels. La TVA, qui remplace 14 taxes diverses, est un impôt sur le chiffre d'affaires. Plus précisément, sur la marge d'un produit, c'est-à-dire sur la différence entre le prix d'achat que paye le commerçant et le prix de vente que paye le consommateur.
La TVA est un impôt sain, économiquement. D'abord parce qu'il frappe quelque chose de vrai. Il frappe la marge. Un commerçant achète quelque chose 10 francs, il le revend 12, l'impôt est sur les 2 francs de marge qu'il prend. C'est donc parfaitement précis et je dirais c'est juste. C'est d'autre part un impôt sain parce que, comme vous le savez, il favorise l'investissement. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, parce que vous le connaissez parfaitement et parce que ça serait trop long, mais la TVA pousse à l'investissement, favorise l'investissement. Et c'est un impôt sain parce qu'il favorise la concurrence, parce qu'il pousse à la diminution des marges. Et c'est enfin, je dirais, un impôt socialement juste, parce qu'au fond, il ressemble un peu, quoique indirect, à un impôt direct. Et qu'en particulier, il frappe davantage les marges fortes que les marges faibles. Or, les marges fortes sont en général sur les objets de consommation les plus chers, ceux qui s'adressent à la clientèle la plus riche.
Depuis son invention en 1952 et surtout sa mise en place en 1954, puis sa généralisation en 1968, date des deux extraits que vous venez d'entendre, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue la première source de revenus pour l'État. Elle s'élevait en 2022 à 200 milliards d'euros. Une manne certes, mais cet impôt indirect qui touche désormais 95% de la population mondiale ne fait pour autant pas consensus. En frappant les consommateurs au portefeuille, elle s'applique à tous indépendamment du niveau de revenus. De quoi se demander si une baisse de cette taxe serait ou non une idée judicieuse pour préserver le pouvoir d'achat des Français et de revenir sur les raisons de son instauration. Nous en parlons avec nos deux invités, l'économiste Michaël Zemmour, enseignant-chercheur en économie à l'Université Lumière Lyon 2, éco-directeur de l'axe politique socio-fiscale du LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Également avec nous en studio, Alexis Spire, sociologue et directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS. Alors vous êtes tous les deux les co-auteurs de notes sur ce sujet, également d'ouvrages, Alexis Spire, dans votre cas avec l'historien Nicolas Delalande, un ouvrage qui s'intitulait « Histoire sociale de l'impôt » paru chez Repère en 2010, mais également l'ouvrage « Résistance à l'impôt, attachement à l'État, enquête sur les contribuables français » aux éditions du Seuil en 2018. Bonjour et bienvenue dans ce studio.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Alexis Spire, avant d'entrer plus en détail sur les effets néfastes ou bénéfiques, nous le verrons, de cette fameuse TVA et des raisons qui ont poussé à sa création, il nous faut peut-être d'abord bien comprendre comment elle fonctionne, qui y est assujetti aujourd'hui et qui ne l'est pas.
Ah bah ça, qui est assujetti, c'est donc un impôt qui, comme ça a été dit dans les extraits, qui est un impôt de rendement et qui est un peu le poumon de l'État hein, depuis maintenant plusieurs décennies. Ça touche tous les biens qui sont vendus et donc la particularité, je pense qu'il faut avoir en tête, surtout si on fête aujourd'hui un anniversaire, c'est que aujourd'hui c'est un impôt qui touche les consommateurs en fait, alors que à sa création en 1954 c'est un impôt qui avait été conçu comme un impôt de production. Et au départ, en fait, ça touchait essentiellement, en 1954, ça venait remplacer, en fait, la cascade des impôts qui existaient. Et voilà, et donc ça touchait une minorité, en fait, hein, d'entreprises. Et c'est seulement, effectivement, en 1968, en fait, enfin 1966, et c'est 1968 que ça a été mis en place, généralisé, disons, au commerce et à la vente de détail. Et à ce moment-là, c'est devenu alors quelque chose qui touche, on peut dire, tous les Français. Tous ceux qui consomment sur le territoire français sont forcément, nécessairement, dès qu'on achète un bien ou dès qu'on consomme un service, assujettis à la TVA avec des taux différents selon, là aussi, selon les époques, selon les biens. Voilà. Mais en tout cas, l'anniversaire qu'on fête aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un impôt qui n'avait pas exactement le même impact et la même structure que celui qu'on connaît aujourd'hui.
C'est ça, ce qu'il faut dire pour peut-être rentrer dans le détail, c'est quand Maurice Lauré, hein, qui est l'inventeur inventeur, on pourrait le dire comme ça, de cette fameuse TVA en 1952. Il est alors inspecteur, il est directeur adjoint de la Direction Générale des Impôts. Son but, c'était vraiment de remplacer la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises qui se répercutait effectivement en cascade, comme vous l'avez dit, et de le remplacer par cette taxe sur la valeur ajoutée. L'objectif, c'était quoi? C'était de simplifier la vie des entreprises.
Oui, c'était à la fois de simplifier, c'était aussi de favoriser l'investissement. Ça a été dit, avoir un impôt neutre, puisque en fait les impôts qui pèsent sur les charges en amont, disons, sont neutralisés. Là où on peut apporter un correctif à l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'en fait, dès 54, on peut dire que l'objectif, c'est de faire un impôt de rendement, c'est un impôt qui rapporte beaucoup plus qu'un impôt juste, en fait. Et là, c'est une première différence qu'on peut introduire par rapport à l'instauration de l'impôt sur les successions au début du siècle, ou l'instauration de l'impôt sur le revenu, où la question de la justice sociale et de la justice fiscale était au cœur de la création de ces impôts. Là, concernant la TVA, il faut quand même savoir que c'est pas du tout ni dans l'objectif, ni dans les effets qu'on va retrouver des considérations relatives à la justice fiscale. Mais en revanche, la question de l'efficacité et surtout de l'efficacité pour l'État et de la manne financière que ça représente pour l'État est évidemment au cœur de, alors non seulement de la création, mais surtout de sa généralisation en 1968. Parce qu'encore une fois, selon les périodes, c'est un prélèvement qui va représenter jusqu'à la moitié des recettes fiscales, donc c'est considérable. Aujourd'hui, c'est un peu moins, c'est plutôt autour de 38%, mais à certaines époques, ça a occupé une place considérable, la TVA.
On le disait, en termes de généralisation, il y a la date charnière de 1968, puis progressivement, les choses vont s'accélérer à tel point qu'aujourd'hui, 174 pays représentant 95% de la population mondiale disposent de ce système de la TVA, à l'exception notable des États-Unis. Comment on explique un tel engouement, Michaël Zemmour, finalement, c'est l'idée que c'est pas forcément un impôt si inefficace que ça. Il remplit ses objectifs.
Je pense qu'on peut l'associer avec le progrès social et économique à l'augmentation de la taille des États et des services publics. Et l'avantage d'avoir un impôt de rendement important, c'est qu'il permet de financer des services publics de type école, santé, université, qui étaient beaucoup moins développés dans les États au début du siècle. Et donc l'expansion des États, et notamment dans les pays riches, elle s'accompagne de ce développement fiscal. Et effectivement, aujourd'hui, la TVA, elle rapporte beaucoup, beaucoup plus, de l'ordre de 3 fois plus, si je ne me trompe pas, que l'impôt sur le revenu, par exemple.
Cela dit, il faut peut-être revenir sur une nuance d'importance, c'est que tout le monde n'est pas assujetti finalement à cette TVA, et il va falloir comprendre aussi le mécanisme de savoir qui la paye vraiment, en fait, ce qui est une différence de taille entre l'assujettissement juridique et la réalité. Il faut peut-être préciser que certaines activités sont exonérées de la TVA, l'enseignement par exemple, les activités sanitaires ou médicales, les œuvres sans but lucratif à caractère social ou philanthropique. Moi je trouve que c'est intéressant cette distinction, Michaël Zemmour, ça veut dire que les missions d'intérêt général sont exemptées d'une taxe qui potentiellement est injuste.
Le principe, c'est que tous les biens et les services supportent la TVA, et il y a quelques exceptions. Alors peut-être la plus grosse, en fait, économiquement, c'est les loyers. C'est un service de logement qui n'est pas assujetti à la TVA. Et puis à côté de ça, il peut y avoir des exceptions que je ne connais pas toutes, mais des niches, soit dans le secteur associatif, soit dans le secteur culturel. Et en général, quand on met en place une exception, c'est parce qu'on juge l'activité économique particulièrement vertueuse. Peut-être celle qu'on peut avoir le plus en tête, c'est la TVA très réduite sur les médicaments, qui est de l'ordre de 2%, et où là, la logique, c'est qu'on ne va pas faire payer à des cotisations qui remboursent les médicaments une TVA importante, et donc faire des vases communicants.
Et justement, sur la question de qui la paye in fine, il y a tout un mécanisme à bien comprendre. Alors, on va essayer d'être le plus clair possible, mais en fait, les entreprises sont juridiquement assujetties donc à cet impôt. Il est généralement admis qu'elles pèsent en réalité sur les ménages, et c'est l'objet notamment de cette émission de comprendre cela. Et ça s'explique par un mécanisme très particulier finalement de cette taxe-là, qui est un mécanisme fractionné. En réalité, les entreprises se font rembourser tout au long de la chaîne de production finalement de l'objet final, se font rembourser une partie de cette TVA, Michaël Zemmour.
Oui, alors je vais essayer de l'expliquer clairement parce que c'est vraiment une bonne chose pour se prendre les pieds dans le tapis. Mais une entreprise qui achète un bien ou un service à une autre entreprise, elle lui paye un prix hors taxe, et à ce prix hors taxe, on ajoute une taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire on va prendre 20% sur la valeur créée. Donc l'entreprise qui fabrique des chaises achète à l'entreprise qui fabrique des planches avec de la TVA. Simplement, cette TVA, elle ne fait que la passer, un peu comme on se repasse le mistigri. Et quand elle va vendre sa chaise au consommateur final, le consommateur final va payer 20% de TVA sur l'ensemble du prix et l'entreprise va récupérer la TVA qu'elle a elle-même payée à la première entreprise et ne va verser à l'État que le différentiel. Donc chaque entreprise verse à l'État la TVA qu'elle reçoit du consommateur intermédiaire ou du consommateur final, mais en bout de chaîne, juridiquement, c'est le consommateur qui supporte l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée. Là, on a fait la chaîne juridique pour savoir qui paye la facture. Mais la grosse question des économies, c'est qui supporte le poids économique de la TVA. Et là, c'est un petit peu plus compliqué à mesurer. Le consensus, c'est de se dire que c'est plutôt les consommatrices et les consommateurs dans leur ensemble. Sauf qu'en fait, on ne peut jamais le mesurer. C'est-à-dire que la TVA, elle est tellement incrustée dans les prix que quand vous achetez une baguette de pain, il y a de la TVA dessus, mais personne s'en rend compte. Et donc, le seul moyen qu'ont les économistes pour mesurer qui paye vraiment la TVA, est-ce que c'est l'entreprise, le consommateur, le fournisseur, c'est d'utiliser des événements, c'est les moments où on change le taux de TVA. Et au moment où on change le taux de TVA, les économistes sont là avec leurs instruments de mesure pour voir est-ce que les prix augmentent, est-ce que les marges baissent et qui, au final, profite de la hausse ou de la baisse de TVA.
Alors justement, sur ces changements de taux de cette fameuse taxe sur la valeur ajoutée, je voudrais vous faire écouter une archive de 1965.
Et en ce qui concerne la baisse de la TVA, est-ce que vous la souhaitez ?
Ah oui, c'est sûr, tous les coups. Oui.
Et pourquoi ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'articles, si on supprimait la TVA, ça arrivera à diminuer peut-être.
Ah bah ça bien sûr, c'est valable.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que ça touchera l'ensemble des gens.
Bon, je pense que c'est toujours bon de baisser les taxes, un peu surtout.
Ça activerait certainement les consommations, si ça ne constitue pas un vrai remède.
Voilà, ce micro-trottoir de 1975 et non 65 nous laisse entendre que finalement peu d'années après sa généralisation, la TVA n'a déjà plus bonne presse auprès des consommateurs qui voient sa diminution comme un remède, on l'entendait. On est bien loin de l'impôt sain et juste vanté par Pompidou en début d'émission, Alexis Spire.
Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand elle est généralisée en 1968, on a tout un tas de taux de TVA très différents, enfin beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 4-5 taux, enfin voilà. À l'époque, on a c'est même d'une complexité incroyable, puisque selon si le poulet est cuit ou cru, c'est pas le même taux de TVA. Selon si le poivre est moulu ou en grain, c'est pas le même taux de TVA. Donc c'est vous dire si c'est compliqué. Et ça ouvre la porte à la fraude, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un impôt qui a un très fort rendement. Mais avec ce système fractionné et avec la communautarisation qui va avoir lieu, c'est-à-dire le fait que la plupart des pays européens vont se saisir de cet impôt pour l'instaurer aussi et construire ainsi un espace communautaire, il va y avoir ça va développer des possibilités de fraude à la TVA qui vont être très importantes. Alors, pour votre question, il n'a pas bonne presse. En fait, c'est pas tellement, enfin, quand on regarde un peu ces années-là, c'est-à-dire essentiellement les années 68 ou 70, toutes les années 70 où on a la montée en puissance de cet impôt indirect qui touche effectivement tout le monde et de façon très forte. En fait, c'est assez peu un enjeu politique et un enjeu économique à l'époque. Pourquoi ? Parce que, en fait, la question sociale, historiquement, elle se joue sur les salaires et encore à cette époque-là, et en particulier en 68 et surtout après, c'est la question du pouvoir d'achat, la question sociale, elle se joue sur les salaires. Et comme les salaires suivent l'inflation, en fait, la TVA, c'est pas vraiment un enjeu. Ça va le devenir, en fait, dans la période récente, précisément parce que, les salaires vont être décorrélés de l'inflation au début des années 80, puis ensuite de plus en plus stagner, et là la TVA va devenir un enjeu politique et aussi un outil qu'on manipule. Mais à l'époque, on est encore une fois dans une configuration où c'est un enjeu pour l'État, évidemment pour les finances de l'État, pour asseoir cet impôt de rendement de façon simple, sans qu'il y ait trop de fraude, parce qu'encore une fois, d'abord à l'époque, dans les années 70, les commerçants aussi se plaignent du fait que ça leur ajoute du travail, qu'ils ne s'y retrouvent plus dans tous ces taux, etc. Donc assez vite, on va ramener à 4 taux pour essayer de simplifier l'espèce d'usine à gaz qui avait été faite en 68. Mais encore une fois, pour les consommateurs, quand c'est instauré en 68, vous voyez, un grand mouvement social, c'est pas la TVA qui est dans les accords de Grenelle l'enjeu, quoi. C'est vraiment beaucoup plus la question des salaires, évidemment, beaucoup d'autres questions.
On voit que la complexité, finalement, du dispositif, d'un point de vue presque administratif, empêche une forme de prise de conscience sur les inégalités que peuvent générer, finalement, cette fameuse TVA qui est souvent taxée, pour le coup, d'être un impôt régressif ou anti-progressif. Il faut dire qu'elle s'applique à tous, finalement, via la consommation, quel que soit son revenu. Et ce qui fait que la part de la TVA représente 12,5% du revenu disponible des ménages appartenant à la catégorie des plus modestes, contre 4,7% seulement pour les ménages dans la catégorie la plus aisée. C'est en cela, Michaël Zemmour, qu'on peut dire qu'elle est injuste, finalement, cette taxe.
En tout cas, on peut dire qu'elle est régressive au sens où elle représente une part plus importante du revenu des plus modestes. Les plus riches en payent plus parce qu'ils consomment plus, mais rapporté à leur revenu, c'est une part plus importante pour les plus modestes. Pour une raison, c'est que plus on est riche, plus on va avoir tendance à épargner une partie de son revenu. Les plus pauvres consomment tout leur revenu, et même parfois un peu plus que leur revenu, et donc tout leur revenu est soumis à la TVA ou aux autres impôts sur la consommation. On parle en ce moment beaucoup des impôts sur l'essence. Donc pour ça, c'est effectivement régressif. Et donc, on peut dire d'une certaine manière anti-redistributif. Mais si on s'arrête là, on n'a pas fait toute l'image. Parce que, effectivement, la TVA, elle, de ce point de vue-là, fiscalement, elle va augmenter les inégalités. Donc, elle fait l'inverse de ce que fait un impôt progressif comme l'impôt sur le revenu. Mais elle finance des dépenses publiques, les dépenses de l'État, et notamment les dépenses d'éducation, qui, elles, sont très redistributives, puisqu'elles fournissent un bien public universel à tout le monde. Et donc, si on prend que la TVA en elle-même, elle est anti-redistributive, mais si on fait le tableau complet de la TVA et des services publics qu'elle finance, alors on peut dire que les pays qui ont plutôt un haut niveau de TVA sont aussi les pays qui ont un haut niveau de services publics et qui réduisent par là même les inégalités.
Mais est-ce qu'on arrive à savoir, Michaël Zemmour, enfin ce qu'on comprend bien dans ce que vous nous dites, c'est que finalement, très schématiquement, la TVA rapporte, et de fait c'est de l'argent pour l'État qui va pouvoir le redistribuer sous la forme de prestations sociales, en tout cas bon, de façon plus ou moins juste, mais est-ce qu'on sait très précisément, est-ce qu'on peut savoir comment cette TVA est fléchée ?
Alors la TVA, pour l'essentiel, elle n'est pas fléchée parce qu'elle rentre dans le budget de l'État et donc elle est fondue avec les autres recettes. En France, on a de plus en plus une exception parce que de plus en plus la TVA, une partie, un tiers je crois, va être fléchée vers la sécurité sociale pour remplacer des cotisations que les entreprises ne payent plus. Mais globalement, elle va dans le budget de l'État. Donc on ne peut pas dire que tel euro de TVA va financer soit un porte-avions, soit une école. Par contre, quand on fait de la comparaison internationale et qu'on prend un pays qui a un très haut niveau de TVA comme le Danemark ou un pays qui a des taxes sur la consommation très faibles comme les États-Unis, on voit bien l'autre effet, c'est que les services publics sont beaucoup plus importants au Danemark qu'aux États-Unis. Donc si on ne voit pas à l'euro, on voit bien qu'il y a des systèmes différents et que les systèmes qui ont beaucoup de services publics gratuits sont des systèmes qui collectent beaucoup de ressources et ces ressources, elles se font soit par des cotisations sociales, soit par des taxes à la consommation, soit les deux.
On voit notamment dans l'actualité que cette TVA, elle a de multiples usages. Effectivement, on peut notamment citer le cas de la redevance télé qui a été supprimée en juillet 2022 et remplacée provisoirement par l'affectation d'une fraction de la TVA. Quelles peuvent être les conséquences finalement très concrètes d'un tel changement de mode de financement ? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, plus on diversifie finalement les usages de la TVA, plus il y a de chances qu'elle soit inefficace et donc injuste potentiellement ?
Ça dépend ce qu'on change au préalable. C'est-à-dire que la TVA en elle-même, si vous augmentez la TVA pour, par exemple, rendre la santé gratuite, probablement, globalement, le bilan sera plutôt redistributif. Par contre, si vous transférez un prélèvement obligatoire, l'impôt sur le revenu par exemple, ou certaines cotisations sociales sur de la TVA, probablement que vous allez augmenter les inégalités puisque vous transformez un prélèvement qui est un peu progressif ou très progressif vers un prélèvement qui est régressif. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, vous faisiez allusion à la redevance télé, on peut penser aussi aux cotisations sociales. C'est des prélèvements très particuliers parce qu'ils ont la spécificité d'être affectés. On sait où ils vont, et donc en particulier la redevance télé, elle garantissait un certain niveau de ressources à l'audiovisuel public. Et quand vous remplacez ça par de la TVA, dans un premier temps, on a le même système de fléchage. Donc une partie des ressources de la TVA qui va être garantie soit à l'audiovisuel public, soit à la sécurité sociale. Mais il est assez facile pour l'État de revenir sur ce fléchage. Et à moyen terme, les recettes qui avaient été promises ont moins augmenté que si on avait gardé le prélèvement d'origine.
On parlait notamment des cotisations sociales à l'instant. Alexis Spire, c'est une idée d'actualité puisque Bruno Le Maire a proposé dans son ouvrage récemment paru de transférer 5 points de cotisation ou de contribution acquittés par les salariés, soit près de 60 milliards d'euros sur la TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA sociale. Est-ce que selon vous, c'est une idée tout à fait nouvelle ?
Alors c'est pas une idée nouvelle parce que ça a déjà été fait, mais ça je laisserai Michaël Zemmour en parler. Mais moi, le principe qui est derrière, c'est quand même quelque chose qui peut interroger, parce qu'en fait ça consiste quand même à faire prendre en charge par les finances de l'État, en l'occurrence la TVA, quelque chose qui était avant pris en charge par les entreprises. Et ça on voit que en l'occurrence les cotisations sociales. Et ça on voit que c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. C'était particulièrement visible d'ailleurs au moment du mouvement des Gilets jaunes, si vous vous souvenez en fait, hein, parce que l'astuce qui avait été trouvée pour répondre au mouvement, c'était d'instaurer une prime qui est financée par le contribuable, mais une prime pour les travailleurs, et donc est versée par au niveau des entreprises, au niveau des salariés, donc ça c'est je pense que ce mécanisme là il interroge, parce que on dit souvent qu'il y a plusieurs fonctions de l'impôt, hein, mais l'impôt, enfin historiquement, l'impôt n'a pas à se remplacer, disons, les entreprises dans leur faculté de cotisation, etc. Donc ça, je pense que on ouvre la voie, enfin qui est déjà par certains côtés bien ouverte, hein, mais disons qu'on continue à s'engager dans une voie un peu étrange où on fait payer par le contribuable des choses qui auparavant étaient payées par les entreprises. Ensuite, ça pose une autre question, mais là qui devrait être une question du débat public, c'est est-ce que on va toujours plus loin dans la fiscalisation de la protection sociale, c'est-à-dire dans le fait que c'est l'impôt qui prend en charge finalement la protection sociale. Alors c'est quelque chose de encore une fois qui fait débat. Ce qu'il faut savoir, enfin ce qui peut intéresser du point de vue sociologique, c'est qu'il y a un très fort attachement à la protection sociale. Et c'est vrai que en France aujourd'hui, disons que il y a beaucoup de contestation, de gens qui... Voilà, mais en tout cas, la protection sociale, ça fabrique encore beaucoup d'adhésions. Il y a un très fort attachement à ce système de protection sociale. Voilà, donc derrière ça, on essaye d'associer un impôt qui est quand même perçu comme encore relativement injuste et qui a mauvaise presse à quelque chose qui plutôt suscite de l'attachement. Et donc il y a peut-être aussi de l'ordre de l'astuce, là, à essayer d'allier ces contraires-là. Mais encore une fois, c'est aussi à rapporter à ce que l'usage qui a été fait de la CSG et du processus de fiscalisation de la protection sociale. Et là aussi, il faudrait avoir un débat politique clair là-dessus pour savoir dans quelle direction on souhaite aller.
D'ailleurs, en parlant de questions démocratiques, finalement, Michaël Zemmour, si on a cette bascule qui s'opère sur la TVA, est-ce qu'on est sûr, par exemple, que si la TVA augmente, ça va nécessairement mener à une augmentation du financement de la protection sociale? Qui peut nous en assurer, finalement?
On en est un peu moins sûr qu'avant. En fait, cette histoire de TVA sociale, ça existe déjà en partie. Alors, François Hollande a mis en place le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui très vite a été transformé en exonération de cotisations sociales. Pour faire simple, les entreprises ne payent pas une grande partie des cotisations sociales qu'elles devraient payer sur les bas salaires. Et pour financer cette baisse de cotisations sans vider les caisses de la Sécu, une partie des recettes a été trouvée en augmentant la TVA sous le mandat de François Hollande. Donc là, on a vraiment un exemple de TVA sociale. Du mandat de François Hollande, c'était sur les cotisations employeurs. La proposition de Bruno Le Maire, c'est de faire la même chose, mais avec les cotisations salariées. Qu'est-ce qu'on peut en penser? La première chose, c'est qu'il y a un petit côté usine à gaz. C'est-à-dire qu'on fait des grandes réformes pour, au final, financer la même chose sans véritable nouveau projet. Et souvent, on a des attentes économiques. On a trouvé la martingale, on a trouvé le bon impôt qui ne posera pas de problème. Et on est très déçu du résultat. C'est ce qu'on a vu avec le CICE. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les cotisations sociales, c'est une garantie de recettes pour la sécurité sociale, avec cette propriété que quand les salaires augmentent, et ils augmentent avec dès qu'il y a un peu de croissance, les recettes de la sécurité sociale augmentent au même rythme. Quand on remplace les cotisations par de la TVA, ça peut marcher pareil, parce que les prix augmentent aussi à un certain rythme, et au rythme de la croissance notamment. L'assiette de la TVA augmente au rythme de la croissance. Mais il est beaucoup plus facile pour l'État, d'une année sur l'autre, de débrancher un peu le tuyau TVA, de le reformater et finalement de ne pas accorder à la sécurité sociale les recettes auxquelles elle pouvait s'attendre. Donc, dans ce projet de TVA sociale, un des risques, c'est qu'il y a un affaiblissement de la protection des recettes pour la sécurité sociale qui finance les retraites, la maladie ou les accidents du travail, par exemple.
Je vais mettre en place un dispositif qui permet de créer un panier de 100 produits qui seront à TVA zéro, c'est-à-dire suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité alimentaire.
Il y aura quoi dedans ?
Et hygiène. Bah, dedans, il y a le sel, le poivre, l'huile, le pain, les pâtes, les serviettes hygiéniques, les couches pour les bébés.
Vous enlevez la TVA, carrément.
Oui, j'enlève la TVA tant que l'inflation est supérieure de 1 point à la croissance. Je crois que c'est absolument fondamental.
Alexis Spire, cette proposition de Marine Le Pen d'abaisser la TVA tout simplement à 0% sur les produits de première nécessité, qu'est-ce qu'on peut en penser? Et est-ce qu'on peut être sûr aussi que ça se répercutera sur les prix?
Ah bah, on peut en penser que ça risque d'être une très mauvaise idée. Alors, en même temps, il faut rappeler que c'est une idée qui avait été portée d'ailleurs par le mouvement des Gilets jaunes. Hein. C'était une revendication, il y en avait quand même quelques-unes, et elle en faisait partie, cette idée d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Alors, en apparence, ça peut être séduisant. Le problème, c'est que les exemples historiques qu'on a sont pas du tout probants sur ce volet-là, parce que le plus récent et le plus massif, sans doute, hein, c'est en 2009, quand Nicolas Sarkozy avait décidé de baisser la TVA sur la restauration, et en la passant de 19,6 à 5,5, à 10, pardon. Et l'effet, voilà, l'effet ça a été entre 2 et 3 milliards d'euros perdus pour l'État. Et voilà, très vite, enfin, je veux dire, il y a eu des études qui ont montré que les prix n'étaient pas du tout adaptés, ajustés, et que donc le consommateur, finalement, payait des prix à peu près équivalents. Donc en fait, pour répondre très clairement à votre question, en ramenant à zéro le taux de TVA sur les produits de première nécessité, ce qui peut paraître comme une mesure de justice fiscale, en fait, on prend un très très gros risque, c'est que les entreprises, parce que le problème de mécanisme de la TVA, c'est que les prix sont pas fixés de façon dirigiste en France, et donc il y a une liberté de fixation des prix. On prend le très très gros risque que les entreprises de ces produits-là en profitent pour refaire leur marge, et que finalement le consommateur n'en voit pas la couleur. Par contre, il y a un truc qui est sûr, une chose est sûre, c'est que les finances publiques vont perdre beaucoup beaucoup d'argent si on fait ça.
Michaël Zemmour, sur cette baisse de la TVA pour la restauration, effectivement en 2019, qui était passée, je crois, à 5,5, effectivement, à cette époque-là. On sait que les propriétaires, a priori, ont empoché 56% de cette baisse. Toute baisse est donc nulle et non avenue, de votre point de vue?
Alors, je ne sais pas, mais effectivement, cette baisse de la TVA dans la restauration, donc si je me souviens bien, il y a eu une baisse importante, puis ensuite une hausse partielle à 10%. C'est un des événements dont s'emparent les économistes pour essayer de comprendre qui supporte le coût économique de la TVA, puisque c'est pas forcément la personne qui paye le ticket de caisse qui le supporte. Donc qui ça peut être? Si, quand on baisse la TVA, les prix baissent, eh ben on peut dire que c'est le consommateur qui paye à la TVA qui vient de baisser. Si, quand on baisse la TVA, le prix ne bouge pas, on peut dire que c'est, par exemple, le restaurateur qui payait avant la TVA et qui profite de la baisse de TVA. Donc là, on voit à peu près l'idée. Mais en fait, ce qu'il y a d'amusant, c'est une note de l'Institut des politiques publiques qui le montre, c'est que quand la TVA sur la restauration a baissé, les prix des restaurateurs ont très faiblement baissé. L'essentiel est parti dans les marges de la restauration. C'est un secteur où les marges sont faibles, ça leur a donné une bouffée d'oxygène. Les salaires n'ont pas tellement augmenté. Par contre, quand la TVA a réaugmenté dans la restauration, les prix ont augmenté. Et c'est les consommateurs qui ont payé. Et donc ça veut dire que c'est un peu difficile de déterminer en général qui paye la TVA, mais une baisse de la TVA et une hausse de la TVA n'a pas nécessairement les mêmes effets. Ça a des effets sur les finances publiques dans tous les cas. Par contre, sur le niveau des prix et sur qui supporte le coût économique de la TVA, ça va dépendre du secteur, est-ce qu'il y a plus ou moins de concurrence, de la tension sur les prix et puis de l'attitude des restaurateurs en l'occurrence.
Alexis Spire, en conclusion de cette émission qui est en train de se terminer, vous disiez que la TVA passait souvent sous les radars du sentiment d'injustice fiscale dans les années 60 et 70, du fait de sa complexité, puis finalement on a assisté à une politisation, vous citiez notamment les Gilets jaunes. Est-ce que, selon vous, la TVA va devenir le prochain objet d'une colère sociale grandissante?
Alors moi, je fais pas de prédiction, mais on peut quand même constater effectivement que ces dernières années, du fait que la question sociale, la question du pouvoir d'achat et maintenant, enfin aussi de la rémunération du travail, sont devenues des questions de premier plan dans un contexte où les salaires évoluent peu et où beaucoup de salariés ont intériorisé l'idée que finalement ils pouvaient plus demander de revendications avancer de revendications salariales ou demander d'augmentation de salaire parce que la compétition compétitivité, parce que la mondialisation, parce que les fermetures d'entreprises, etc. Ben, s'ils veulent réclamer pour leur pouvoir d'achat, s'ils veulent, disons, faire avancer des revendications pour leur pouvoir d'achat, il n'y a pas 50 leviers. Et donc, ça se reporte sur l'attaque sur les carburants dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, ça se reporte sur la question de la TVA, et c'est pour ça qu'il y avait cette revendication de TVA à 0%. Effectivement, avec aussi ce fait que chez les salariés, disons, de classe populaire et classe moyenne, il y a des fortes interactions avec les petits indépendants, les classes moyennes indépendantes et les classes populaires indépendantes, et que c'est la question fiscale chez ces catégories-là est historiquement très forte et très importante, et qu'elle se diffuse aussi du coup aux salariés qui s'en saisissent pour dire, ben en fait finalement il y aurait un moyen de retrouver du pouvoir d'achat et de retrouver la question sociale, c'est de s'adresser à l'État et de demander qu'il en prenne moins, et donc qu'il prenne moins de TVA ou qu'il prenne moins de cotisations, et donc c'est le contexte dans lequel on est. Mais encore une fois, avec ce danger que le troisième terme, ce sont les entreprises, et on ne sait pas très bien quel est leur comportement et leur position quand on joue sur la TVA.
Un grand merci à tous les deux, Alexis Spire et Michaël Zemmour, d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.
Pourquoi les clauses et les mesures miroirs sont-elles nécessaires ? Alors que ce dispositif était resté confidentiel et réservé aux seuls experts du sujet, les clauses miroirs et les mesures miroirs sont devenus un élément essentiel dans le débat suscité par le mouvement de protestation lancé par les agriculteurs quelques semaines avant l'ouverture du Salon de l'agriculture. Depuis plusieurs années, un certain nombre de personnalités, d'ONG, d'associations, de think tanks, parmi lesquels l'Institut Veblen, attirent l'attention sur les risques de concurrence déloyale que comportent les échanges commerciaux, en particulier ceux qui sont organisés par les grands accords. En effet, trop souvent, les produits importés sont fabriqués en respectant des normes environnementales, sanitaires et sociales beaucoup moins sévères que celles en vigueur dans notre pays, ce qui constitue pour les producteurs français un handicap compétitif et une forme de dumping social exercé à leur encontre. Celles et ceux qui veulent s'attaquer à ce problème proposent d'imposer aux pays tiers les mêmes règles et normes que celles exigées en France et en Europe. Les clauses miroirs s'appliquent dans le cadre des accords de libre-échange avec les pays partenaires de l'accord, alors que les mesures miroirs sont incluses dans la législation européenne pour appliquer les standards européens à l'ensemble des produits importés venant des pays tiers. L'Institut Veblen, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Interbev ont publié au mois de mars un important rapport intitulé « Pourquoi est-il urgent de mettre en place des mesures miroirs ?». Depuis plusieurs années, les trois organisations accumulent les arguments mettant en évidence que les mesures miroirs sont un outil essentiel à la fois pour préserver le climat, la biodiversité et la santé de tous, notamment vis-à-vis des pesticides les plus nocifs, mais aussi pour stopper la concurrence déloyale qui étouffe le monde agricole. Le rapport pointe le fait que la multiplication des accords de commerce établis par l'Union européenne ces dernières années, comme le CETA avec le Canada ou le récent accord avec la Nouvelle-Zélande, accentue d'autant plus cette concurrence déloyale. Il facilite les exportations de pesticides interdits et l'entrée sur le marché de denrées agricoles produites selon des normes environnementales ou sanitaires moins exigeantes qu'en Europe. Une tendance qui devrait se renforcer encore à mesure que de nouveaux accords sont signés, comme avec le Chili ou le Mexique, ou encore en cours de négociation avec les pays du Mercosur ou l'Australie. Depuis les années 70, le système agricole et alimentaire a subi de profondes mutations pour s'internationaliser à son tour avec une forte spécialisation agricole, parfois à l'échelle de pays entiers. En parallèle de cette spécialisation, l'agriculture d'après-guerre s'est également industrialisée, entraînant une multiplication d'effets néfastes pour le climat, la biodiversité et la santé des populations. L'un des enjeux du XXIe siècle est donc de continuer à construire un système durable permettant d'assurer la sécurité alimentaire de la population mondiale, tout en préservant les ressources naturelles et en luttant contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Le pacte vert européen, qui vise la neutralité carbone en 2050, s'est traduit en matière agricole par un certain nombre d'objectifs, concernant notamment la réduction de l'usage des pesticides et de la pollution des sols, ou la lutte contre l'antibiorésistance. Sur la plupart de ces points, l'application de la législation européenne engendre une différence de traitement significative entre les denrées agricoles produites au sein de l'UE et celles importées. Les mesures miroirs permettraient à l'Union européenne de remettre en cohérence sa politique commerciale avec ses politiques agricoles et environnementales afin de permettre aux filières européennes de poursuivre leur transition agroécologique. Le gouvernement français semble enfin s'intéresser à ce dispositif, même si son application est délicate, car ces mesures devront être compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce et être justifiées sur la base d'arguments scientifiques, ce qui exige non seulement des contrôles, mais aussi l'accès aux méthodes de production dans les pays étrangers. Il s'agit donc d'un chantier essentiel pour les années à venir.
Merci Dominique. Pour vous réécouter, c'est sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France, où vous pouvez d'ailleurs retrouver également cette émission et toutes les précédentes. Merci à Léa Sabourin qui a programmé cette émission et à Inès Gender qui l'a préparée. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Tina Young, Léopold de Thiévin, Anouk Millot, Diane Devancet, Candice Bergeron et Laurence Jeunepin.